Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Nos ancêtres étaient Canadiens, nos parents se disaient Canadiens-Français, et depuis 1960, nous sommes devenus Québécois. Tout le nationalisme du Québec repose sur ce changement de nom.
Bonjour, je suis Vincent Dessureau. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense haut et fort.
Et voici une citation de Jacques Parizeau. Toute l'histoire du Québec est une quête, celle de la reconnaissance de ce que nous sommes et de l'égalité avec les autres peuples.
Aujourd'hui, le nationalisme québécois est-il dans l'impasse? Bonjour Denise Bombardier.
Bonjour.
L'automne 2018 a été marqué par les dernières élections au Québec qui ont vu une chute, entre autres, du Parti québécois, de l'option indépendantiste. Et on va se questionner aujourd'hui sur le nationalisme québécois. Où on en est et quel est le chemin qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui?
Oui, il faut absolument, parce qu'autrement, on ne peut aucunement envisager l'avenir si on ne retourne pas en arrière. Ça, c'est la leçon de l'histoire, puis c'est la leçon de la mémoire. Alors, on va pas tenir des propos antidiluviens, là, on va pas tenir il y a 100 ans, mais disons qu'on va commencer avec l'émergence du nouveau nationalisme québécois, qui est un nationalisme progressiste et qui est arrivé avec la Révolution tranquille. En plus, ça me permet de vous le raconter parce que je l'ai vécu, moi. J'avais 20 ans dans les années 60.
Avant cette transition-là vers un nationalisme,
on était dans un nationalisme catholique sur la défensive.
Soumis
à l'Église. D'ailleurs, le nationalisme catholique, forcément, c'était un nationalisme où les valeurs étaient chrétiennes, étaient catholiques même, avec l'abbé Grou, qui n'est pas non plus le méchant dont on parle maintenant, parce qu'on caricature les choses et les gens vont pas voir dans les textes. Mais c'est parce que c'était un vrai intellectuel, le chanoine Grou. Mais il y a eu, évidemment, des dérives du nationalisme aussi. Il y a eu un nationalisme d'extrême droite durant la guerre mondiale, 39-45. Vous savez qu'on a eu ici des mouvements fascistes. Hein. Il y a des fascistes, ils appelaient les chemises brunes, qui sont allés se marier au Stadium de Montréal, en groupe, parce que quand ils se mariaient, ben, ils n'étaient pas obligés d'aller à la guerre. Et ça n'a pas été compris non plus par nos alliés, parce que les Canadiens français refusaient la conscription, pas parce qu'ils étaient pour Hitler, mais c'est parce qu'ils étaient contre l'anglais, parce qu'on était obligé d'aller se battre
pour l'Angleterre,
mais il y a eu des Canadiens français qui ont sauvé l'honneur là-dessus, qui sont partis et qui sont engagés avec les espèces de régiments qui venaient de l'extérieur dans des régiments gaullistes. Ils sont allés faire la guerre aussi. Bon.
Et là, on arrive dans cette révolution tranquille qui bouleverse la société au complet, incluant
absolument
ce nationalisme.
Et qui était prévisible parce que l'industrialisation, de toute façon, allait faire sauter le couvercle. Hein, parce que c'était inévitable qu'on arrive à une modernisation. Et l'urbanisation était bien installée. Tant que les gens étaient sur les campagnes, dans les rangs, isolés, c'était facile de les contrôler. Mais avec les valeurs urbaines, d'ailleurs, Claude-Henri Grignon, qui a écrit Un homme et son péché, il a écrit des textes, et puis vous le trouvez dans son œuvre, mais il était contre, il disait qu'il ne fallait pas aller vivre à la ville, que ça corrompait, et ça corrompait l'identité canadienne-française. Il disait les Canadiens-Français vont perdre leur âme s'ils vivent à Montréal. Parce qu'à Montréal, il n'y avait pas juste des Canadiens-Français. Alors, vous voyez, on part de cette mentalité-là, on évolue, et on arrive à la Révolution tranquille. Et la Révolution tranquille, ça a été le début du nationalisme éblouissant. C'est-à-dire que le nationalisme s'est ouvert, est devenu très ouvert, avec des valeurs qui étaient des valeurs d'ouverture au monde, parce que ceux qui ont pensé l'indépendance du Québec, qu'est-ce qu'ils disaient? Nous allons être un pays, nous allons exister en tant que pays sur la terre. Et c'est comme ça aussi que les relations avec la France ont beaucoup changé dans les années 60. L'apogée symbolique de ça, c'est quand le général de Gaulle est venu en 67 et a crié « Vive le Québec libre ». Donc, c'était des souverainistes progressistes, donc centre-gauche à ce moment-là. Il y a eu à l'intérieur de ça, évidemment, la dérive du FLQ, parce qu'il y avait des gens, il y avait des jeunes en particulier, qui ont cru que qui ont pensé qu'on pouvait se comparer aux Algériens, parce que l'Algérie a connu son indépendance dans les années 60, et à tous les pays africains qui se sont décolonisés. Or, notre situation de Canadien français en Amérique du Nord, dans un système économique assis littéralement sur les États-Unis, n'avait rien à voir avec une situation coloniale, au sens où on l'entend. Il y avait des éléments psychologiques. On disait les Canadiens français sont colonisés, tu sais, ils se sentent coupables, ils sont pas sûrs d'eux. Ce sont des caractéristiques des minorités qui sont sur la défensive et qui sont dans une culture de survivance. Mais on n'était pas que dans la culture de survivance, on avait survécu. Autrement dit, nous étions toujours là 300 ans après. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le nationalisme a permis. Le nationalisme a permis d'abord la création d'une bourgeoisie économique. Avant, on avait quelques familles riches. On avait de Gaspé-Beaubien, des familles comme ça, qui étaient riches. Mais il n'y avait pas cette bourgeoisie économique, c'est-à-dire de gens qui se sont mis à faire de l'argent en surfant sur le nationalisme économique qui a permis, avec des gens comme M. Parizeau, par exemple, avant même qu'il se déclare souverainiste, on a créé, ça c'est le Parti libéral. On doit ça au Parti libéral. La caisse de dépôt et de placement, qui a permis d'avoir une richesse collective de milliards de dollars. Maintenant, on sait ce que c'est que la caisse de dépôt. Et de tous les organismes économiques qui ont été mis sur pied. On a valorisé l'entrepreneur québécois et les Québécois qui sont des gens rusés malgré tout et en affaires qui peuvent être très durs et puis être compétitifs. Eh bien, les Québécois se sont affirmés. Et là, ils ont ouvert. Forcément, il fallait qu'il y ait une ouverture. Il fallait aller vendre les produits ailleurs aussi. Non? Et ça, c'est bien avant l'ALENA que ça s'est fait.
Ce changement-là était poussé par la jeunesse. Est-ce que c'était en confrontation avec d'autres générations ou c'était...
Non, c'est pas les jeunes qui ont fait. C'est pas les jeunes qui ont pensé l'indépendance. Moi, je le sais. Moi, j'étais présidente du RIN à l'Université de Montréal dans les années 60. Hein? Mais ceux qui pensaient, c'était des gens qui avaient déjà 45 ans, quoi. 40, 45 ans et 50 ans qui ont pensé ça. Hein? C'est comme les révolutions dans le monde. Les révolutions sont jamais faites par les prolétaires. Les révolutions sont toujours faites par une élite. Hein? Et avec des résultats qu'on connaît en Union soviétique. Hein? C'était l'élite qui est devenue l'extrême gauche et qui a instauré le communisme. Mais pour eux, pas pour le peuple. On a vu ce que ça donnait après. Mais ici, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'était une élite, mais une élite qui avait le sens de la justice sociale. C'était des gens qui avaient une vision égalitaire. Donc, étant des gens, c'est pour ça qu'ils étaient progressistes. Et non pas repliés pour dire, nous autres, les Canadiens français, maintenant, on va tout prendre, puis on va attaquer les autres. C'était pas ça du tout, du tout. Et il y a eu le système d'éducation qui s'est développé, parce qu'avant, il y avait très peu de gens il y avait beaucoup qui étaient scolarisés au Québec. Évidemment, je veux pas dire que la situation a été rose, puisqu'on est 52% de Canadiens, de francophones, sont des analphabètes fonctionnels. Il y a quelque chose qui s'est perdu, mais ça, on y reviendra. Mais le nationalisme, à ce moment-là, était porteur de grands espoirs, et cet espoir-là, évidemment, que la jeunesse l'a vécu. Et vraiment, je sais que nous sommes privilégiés d'avoir eu 20 ans dans les années 60. Parce qu'on voyait tout évoluer. Et donc, et il y a eu le Parti québécois qui a été formé par René Lévesque, René Lévesque, s'il a été tant aimé, c'est aussi qu'il était comme les Québécois. Il était ambigu. La souveraineté association, c'est une contradiction dans les termes, en quelque part. Il disait, on va faire l'indépendance, mais avec une association avec le Canada. Mais l'association avec le Canada, ça suppose que le Canada anglais est prêt à négocier. Donc, il y avait cette... Et moi, j'ai eu le sentiment, en 67, quand le parti a été créé, et en 76, quand il a été élu. Le soir de 76, où il est, le Parti québécois est porté au pouvoir, là, j'ai eu le sentiment d'un accablement chez René Lévesque. Je crois que cet homme avait le sens du tragique de l'histoire et qu'il a ressenti la peur, une peur qui existe chez les Canadiens français quand il s'agit d'envisager...
Un grand changement.
Un grand changement, oui. Oui.
Donc autant les Québécois demandent du changement, mais ils ne le veulent pas nécessairement.
En même temps, moi j'ai déjà dit, mais j'ai déjà dit qu'au moment où on nous a posé la question, voulez-vous, oui ou non, être souverainiste, beaucoup de gens auraient voulu voter où? Ça aurait été plus simple. Hein? Et on l'a senti la peur dans les résultats aussi des deux référendums, finalement. On a vu à quel point. Mais vous savez, il y a des raisons pour ça. Et le nationalisme ne pouvait quand même pas nier la réalité nord-américaine. Nous appartenons à un continent qui est totalement privilégié par rapport au reste du monde, avec les pays européens. Mais on avait des choses à perdre. Alors, on ne pouvait pas dire « on va faire l'indépendance parce qu'on a tout à gagner ». Ce n'était pas vrai parce que l'inconnu politique, c'était une réalité avec laquelle il fallait vivre. On ne savait pas comment les Américains allaient réagir.
C'est vrai que vous aviez parlé des pays africains qui, eux, avaient peu de choses à perdre, rendu là,
Oui, mais comme ils avaient des ressources naturelles, les grands pays colonisateurs sont restés là et ils ont exploité les richesses naturelles. Mais ici, si les Américains se retiraient, s'ils décidaient qu'ils ne voulaient pas un Cuba, parce qu'on avait un mouvement de gauche qui n'était pas important, mais pour eux, ils ne voulaient pas avoir un Cuba sur la tête, comprenez-vous? Alors donc, c'est sûr. Mais M. Parizeau, quand il a fait le deuxième référendum, s'est bien assuré de protéger ses arrières, protéger l'Hydro-Québec, protéger la Caisse de dépôt. Tout, il avait mis en place tout ce qu'il fallait pour que la catastrophe, si le soir du référendum, il y avait eu un oui, que la catastrophe n'existe pas. Parce qu'il y avait évidemment beaucoup d'indépendantistes qui étaient très militants ont sous-estimé la peur des Canadiens français. Mais ça a marché, en partie. Et en partie, c'est justifié parce que nous sommes des privilégiés sur la planète, n'est-ce pas, en tant que Nord-Américains. Alors voilà. Donc, mais le nationalisme, ce qui a été extraordinaire, c'est que ce nationalisme qui s'est développé progressiste, c'est un nationalisme, ça a explosé sur le plan culturel. Et c'est pas faire de la nostalgie que de se dire que les années 60 et 70, avec tous ces chanteurs mythiques qui ont chanté le pays, c'est que les artistes ont exprimé et ont touché le Québec par la façon dont ils nommaient le pays et l'amour du pays. Parce qu'on a beau dire on fait ça pour des raisons économiques, c'est pas vrai. On fait pas ça pour des raisons économiques. Parce que on fait ça pour des raisons plus complexes, plus difficiles. On fait ça pour des raisons de psychologie collective. Il y en a qui disent, ben oui, mais parce que vous savez qu'il y a des gens qui disent, il y a juste l'économie, puis le reste compte pas. Eh bien, le reste, ça compte. Et alors donc, il y a eu un moment, il y a eu une décennie, là, même plus, où tout a explosé. Les films, on faisait des films qui nous ressemblaient, qui parlaient de nous. Des films qui faisait rêver et qui glorifiait le Québec. Et ça a porté les gens aussi. Et ça a permis à ce nationalisme-là de pouvoir faire presque balancer la réalité politique.
Donc, le premier référendum perdu...
En 1980.
Vous parlez de René Lévesque lorsqu'il a dit, bon, vous êtes en train de nous dire à la prochaine fois, est-ce qu'il y croyait, donc, selon vous?
Très sincèrement, je ne sais pas. Et je ne suis pas sûre. Et après, il est mort quelques années après. C'était un homme usé. Il a été usé par le combat. Et je suis sûre que sa déception, il ne l'a jamais écrit. Il a vraiment pas laissé un testament politique. Ses livres sont des livres qu'il a fait rapidement. Il était usé, René Lévesque. Il avait été fatigué de se battre. Il s'était battu pour la Révolution tranquille. En 60, il a été ministre, c'est lui qui avait dit... Moi, j'avais été très étonné, mais comment se fait que René Lévesque, qui était à la télévision, n'est pas de ministre de la Culture? J'étais idiote de penser ça. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est les richesses naturelles, parce qu'il voulait nationaliser l'électricité, notre richesse naturelle principale. Et il l'a fait. Donc, il avait mené des combats fondamentaux, et puis il était... Vous savez, on s'use à se battre pour un rêve. Et lui, il était usé.
C'est des déceptions qui l'ont... usé là-dedans, parce qu'il y a eu tellement de gains, mais c'est quand
même
des déceptions.
Oui, parce qu'il n'est pas mort, il est mort dans la soixantaine, hein? Puis c'est un homme qui n'était pas tuable, qui fumait 5 paquets par jour, qui buvait, qui était capable de boire 3 bouteilles de vin le soir, je veux dire qu'il avait une vie, puis qu'il jouait aux cartes pendant la nuit, tu sais. C'était une espèce de force de la nature. Mais c'est certain. Et celui qui a pris le relais, je dirais, ça a été Jacques Parizeau, qui, lui, n'était pas ambigu comme l'évêque.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
René Lévesque venait, son père était avocat, mais avocat à New Carlisle, là, bon, dans un village, dans une petite ville. Mais Jacques Parizeau vient de la grande bourgeoisie. Et il avait cette assurance. Il avait eu une éducation faite d'assurance, hein, et d'affirmation de lui-même. Et on l'appelait monsieur, d'ailleurs, hein. Et il n'était pas complexé vis-à-vis les Anglais, lui. Il avait été faire un doctorat à Oxford, il a fait un doctorat en France, puis après il est allé au London School of Economics. Il n'y avait aucun complexe vis-à-vis des anglophones. Il n'y avait aucun complexe vis-à-vis des gens riches. Son père était très, très riche, mais son père a laissé l'entreprise d'assurance à son frère, parce que son frère s'en est occupé. Monsieur Parizeau n'était pas un homme d'argent, mais il n'était pas impressionné par l'argent, parce qu'il avait son statut. C'était la haute bourgeoisie. Il représentait... Et c'est pour ça qu'il était moins près des gens. On a dit qu'il était moins près des gens. C'est vrai qu'il était plus gauche que M. Lévesque. Mais M. Lévesque était près des gens. Mais M. Lévesque, il n'aimait pas les intellectuels, puis il n'aimait pas les journalistes.
C'était l'homme du peuple, et on est passé à...
C'était l'homme qui incarnait les Canadiens français complexés. On est passé à une image d'un Canadien français qui n'est pas complexé. Parce que c'est même pas vrai pour Lucien Bouchard, qui a été une figure quand même de l'indépendance aussi, n'est-ce pas? Mais Lucien Bouchard ne vient d'un milieu populaire, vient d'un milieu, son père était un prolétaire. C'est pas du tout le même milieu. Et je pense que l'assurance de M. Parizeau, qui était carrément lui un indépendantiste, hein, il jouait pas sur les mots, lui, mais qui était en même temps un pragmatique, parce qu'il avait été formé dans les deux écoles. Il avait été formé en France, puis il avait été formé en Angleterre. Parce qu'il admirait, en plus, il admirait les Anglais, et il parlait un anglais qui était presque maniéré, en fait, parce que moi, j'ai un mari anglais qui est docteur d'Oxford, donc il a l'accent d'Oxford, et c'est sûr qu'il disait que Monsieur Parizeau, il parlait anglais de façon très, très maniérée. Mais, et puis, il adorait la culture. Donc, et M. Parizeau, eh bien, savait, et il a fait une chose incroyable, ce grand nationaliste, quand il a vu que Lucien Bouchard a été plus populaire que lui parmi l'électorat, hein, parmi les Canadiens français, il s'est mis en retrait au moment du deuxième référendum, en 95, laissant le devant de la scène à Lucien Bouchard, et à 30 000 voix près, ou 35 000, ou 40 000, ça a failli passer. Mais quant à moi, ça aurait été une catastrophe. Parce que faire l'indépendance avec 50% des voix, je ne sais pas comment vous allez négocier après avec celui que vous devez convaincre que vous allez quitter. Donc, vous allez bouleverser le Canada. Ça a été, au fond, ça aurait été une situation, à mon avis, intenable.
Ça aurait pris une victoire éclatante.
Ça aurait pris une victoire quand dans tous les pays baltes, quand les pays baltes, la Lituanie, tous ces pays, quand ils ont voté l'indépendance, ils votaient ça à 85 % après que le mur de Berlin soit tombé, quand le communisme s'est effondré. Ils votent ça à 80-85 %. Nous, on n'a pas été capables. Et bien, évidemment, il y avait une chose qui est très importante. Il y avait évidemment le vote anglophone et allophone à 95 % et plus contre l'indépendance. Donc, ça nous prenait, ça nous prenait 70 % des Québécois francophones pour être capables de faire passer ça avec une marge. Mais en 95, je crois que c'est l'effondrement de ce nationalisme qui nous avait amené là, hein, et qui nous avait aussi, ça nous avait développé économiquement, nous avait développé culturellement, nous avait développé socialement, parce qu'on a tout créé, on a créé le ministère de l'Éducation, on a démocratisé l'enseignement et tout. Et là, ça a été l'effondrement. Et curieusement, les Québécois ont réagi, et on parle des Québécois francophones, ont réagi comme si de rien n'était, d'une certaine façon. Ça a été la cassure du rêve. Et moi, je suis portée à croire qu'une société ne peut pas survivre quand elle ne rêve pas un peu. C'est comme une personne. Hein, une personne qui est juste dans l'immédiateté et juste dans l'efficacité de l'instant et qui ne rêve pas, c'est une personne qui n'est pas habitée par un sentiment qui est le sentiment d'exister, quoi, et de se surpasser. Et à partir de là, la donne politique a complètement changé. Moi, à partir de là, c'est là, moi, personnellement, où moi j'ai compris que ça ne se ferait pas.
On a été dans une décennie de règne libéral, bon, qui vient de se terminer. Mais donc, ce débat qui a été longtemps dans la politique québécoise de « on vote donc indépendantiste ou pas » est tranquillement disparu. Est-ce que c'est ça qui a été la cause de cette décennie libérale, selon vous?
Il y a autre chose. Il y a la mondialisation. Hein? Il y a la mondialisation, il y a la technologie qui a tout changé. Alors, à partir de là, on peut pas faire des choses juste au Québec. Tout est relié maintenant. Et c'est sûr que, parce que qu'est-ce que c'est que la communauté économique européenne? C'est, au fond, c'est la remise en question de l'État-nation. L'État-nation, c'est l'État protecteur. À partir du moment où on va faire des grands ensembles, on est obligé de faire des concessions. Et on fait des concessions sur tous les plans, et en particulier aussi sur le plan culturel. Et à partir de là, l'indépendance telle qu'on l'a rêvée, d'une certaine façon, ça n'est plus possible.
On voit notre premier ministre présentement qui est un ancien indépendantiste qui donc va retrouver veut un certain nationalisme dans le Québec,
dans
l'intérieur du Canada. Il est nationaliste.
Il est nationaliste, mais il ne croit
pas. Vous pensez quoi de ça?
Vous savez, la politique, c'est tellement étrange. Des fois, je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est pas lui qui, à force de se faire dire non par Justin Trudeau, qui lui est post-national, hein, il a dit le Canada, c'est le premier pays post-national. Il n'y a pas de valeur commune au Canada. C'est ce qu'il a dit. On a ces déclarations partout. À force de se faire dire non, peut-être que les Québécois vont comprendre, mais en même temps, je suis pas très... Je ne veux pas dire les mots optimiste et pessimiste, mais je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir, surtout si la nouvelle génération est incapable de se rêver à travers le Québec, dans son identité québécoise. Or, une partie des jeunes, ils se rêvent, ils ont un rêve personnel d'abord, parce que nous sommes dans l'époque absolue du narcissisme.
Mais on va entendre beaucoup de jeunes qui vont dire « Ben moi, je suis un citoyen du monde. » Vous répondez quoi à ça?
Ben, ça veut rien dire. Parce que pour être un citoyen du monde, il faut savoir ce qui se passe vraiment dans le monde. C'est pas seulement qu'est-ce qu'on chante à Oslo, puis c'est la même chose qu'on chante à Montréal. Je veux dire, un citoyen du monde, c'est probablement l'être le plus instruit et le plus cultivé de la planète. Ça n'existe pas.
Vous voulez revenir sur le Gala de la Disque 2018 qui a fait énormément réagir un peu partout au Québec.
Mais le Gala de la Disque, ça a fait réagir depuis le début, ça fait réagir, mais des fois ça faisait réagir parce qu'il s'était passé des événements très importants et très provocants. Mais se déguiser, se mettre des moustaches quand t'es une fille, puis se déguiser presque comme des personnages d'Halloween, c'est pas politiquement intéressant. Ça dit quelque chose, à mon avis, l'incapacité à remercier correctement ou à poser des gestes qui sont des gestes presque obscènes, de se mettre
le trophée dans le fond de la gorge.
Oui, ça. Voyez, tu te dis là, il y a un tel désarroi chez les gens de cette génération-là actuellement. C'est des jeunes on a l'impression qu'ils sont sans repère. Qui sont à la recherche de quelque chose qu'ils ne peuvent pas inventer, qui sont au fond les laissés pour compte d'une sorte d'affection que la société dans laquelle ils vivent porte à ces artistes. Parce qu'on ne peut pas s'attacher à des gens qui ont l'air si perdus que ça. On peut regarder ça, et puis quand on voit les textes aussi des chansons, parce que je vous ai dit, quand on s'est parlé du nationalisme, et entre autres du nationalisme culturel des années 60, 70, même 80, avec l'émergence de ces chanteurs, d'ailleurs, qui ont eu une diffusion en France immédiate, qui ont été, qu'il s'agisse de Robert Charlebois, de Diane Dufresne, de Vigneault, qui est un héros et qui est admiré partout dans la francophonie. Quand on regarde les textes, quand on analyse l'usage qu'ils font des mots, on voit bien qu'il y a aussi une déperdition dans la force des mots. Cette espèce de nécessité toujours de décrire le quotidien dans ce qu'il a de plus minimaliste. T'sais, je lave la vaisselle, ma blonde va arriver, on va aller se coucher. C'est vraiment désolant, je dirais. Parce que il fut une époque où la poésie québécoise était la poésie qui portait le pays. Qui portait les revendications du pays, qui portait l'indignation du pays, qui portait l'amour absolu du pays, qui décrivait les paysages, le Saint-Laurent, notre vastitude, mais en des termes qui magnifiaient ce que l'on était, et qui faisaient rêver au pays. Il n'y a plus de rêve du pays. Il n'y a pas beaucoup de rêves, sinon le rêve de pouvoir prendre sa bière le soir, tranquille, avec sa blonde. Mais ça, je blâme pas ceux qui font ça. Je vous dis que, en ce sens-là, moi, je suis sociologue de formation. Et savez-vous quoi? Ça me sert. Parce que je vois bien que la société, à quel point la société est désorientée, à quel point elle n'offre pas d'espoir. Elle n'offre que le plaisir du moment. Et la possibilité d'un plaisir de l'instant d'après. Mais là, on est dans une toute autre culture. On est dans la culture de la... pas de la vérité, mais le contraire de la vérité, du feeling qu'on éprouve au moment où on l'éprouve. Et ça, c'est certainement pour les artistes, c'est difficile à mettre en mots et c'est difficile à mettre en chanson et à faire rêver les gens avec les chansons.
Parce que la provocation, c'est pas nouveau chez les artistes. Ce qui vous dérange, est-ce que c'est le manque de substance dans la façon de provoquer ou dans ce qui est de la raison de provoquer?
Mais tout à fait, c'est exactement ça, c'est le manque de contenu. On n'a pas les mots pour exprimer le malaise, on n'a pas les mots pour exprimer la frustration, on n'a pas les mots pour exprimer le rêve et on n'a pas les mots pour exprimer la réalité. Donc ça c'est comme un rétrécissement de la créativité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On compense en s'habillant de façon complètement loufoque, hein? Qui distrait d'ailleurs de ce que l'on chante. C'est que commercial. Et quand ça marche plus, tu t'en vas. On l'oublie. Je vois pas beaucoup de choses dans la musique actuelle, dans les chansons actuelles. Je vois pas beaucoup de choses dont on va se souvenir encore dans 5 ans.
Trouvez-vous que c'est tout simplement un symptôme de la jeunesse? Trouvez-vous que la jeunesse manque de substance?
La jeunesse n'est plus politisée. C'est ça qu'il faut dire. Je veux dire, puis vous savez, ce sont des lieux communs, dire je suis pour l'environnement, mais une fois que tu as dit ça, de quoi tu veux me parler? Hein? Comment on fait pour être pour l'environnement? Alors donc, il n'y a pas de substance, parce que les jeunes, on ne les a pas. Ils sont les orphelins d'une transmission culturelle et d'une transmission de valeurs de ceux qui les ont précédés, c'est clair. Et ils ne sont pas nationalistes. Ils disent, moi, je suis Québécois. Mais ça veut dire quoi être Québécois aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parler avec l'anglais et le français dans la même phrase? Je ne crois pas ça. Je crois que ça peut vouloir dire parler très bien français, contrôler la langue et parler très bien l'anglais et peut-être parler le chinois et peut-être parler l'arabe. Mais c'est comme si leur identité, elle est floue. Et ils ont l'allure et le contenu de leur identité. Or, pour évaluer des chanteurs, il faut qu'ils passent l'épreuve du temps. Et maintenant, le temps d'un chanteur, c'est de plus en plus raccourci parce que c'est le temps des vedettes. Et le vedettariat et la notoriété, ça ne veut rien dire si ça ne dure pas. Hein? Qu'est-ce que c'est que la notoriété? C'est d'être connu dans la rue. Est-ce que ça donne des qualités, d'autres qualités? Ça donne pas. Moi, quand les gens disent, bon, t'es bien, t'as de la notoriété, je me dis, mais j'ai rien si j'ai la notoriété. Ça veut juste dire que dans la rue, les gens me connaissent. Ça veut pas dire que j'ai du contenu. Ça veut pas dire que j'ai des valeurs. Ça veut rien dire d'autre. Mais les jeunes sont prisonniers actuellement d'une période qui est une période de mutation de civilisation. Et en ce sens-là, moi, je les envie pas. Et je ne suis pas dans la nostalgie. Je sais très bien qu'on peut pas revenir aux années 60, qu'on peut pas revenir aux années 70, mais je connais assez l'histoire et j'ai assez de mémoire pour savoir que les grandes choses traversent le temps. Mozart, il est encore là et Mozart vend plus de disques que
la plupart. Que jamais.
Oui, mais énormément. Et je sais que les grands écrivains, c'est pareil. Si vous voulez comprendre le 19e siècle, vous lisez les auteurs du 19e siècle. Si vous voulez comprendre comment ces gens-là ont été précurseurs de leur société. Je vois rien dans la chanson actuelle. Et en ce sens-là, toutes les chansons de Charlebois, toutes ces Starmania, c'était précurseurs de ce que l'on vit maintenant, tout de même.
Vous voyez quoi dans le futur au niveau de la culture québécoise, sachant qu'aujourd'hui, on a accès à tout ce qui se fait dans le monde pratiquement gratuitement? Est-ce qu'il y a de la place?
Maintenant, on est dans la mixité, puis dans la... C'est sûr, la culture québécoise comme telle, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. On va avoir des gens, on va avoir des chanteurs qui vont réussir. On en a d'ailleurs des groupes qui se font reconnaître à l'étranger, mais ils chantent en anglais aussi. Comme les Français font la même chose. Alors donc, qu'est-ce que sera la musique de demain? Je ne sais pas, mais c'est pas la mienne. De toute façon, ça, c'est normal, parce qu'il arrive un âge où on n'est plus dans la musique. Mais moi, je demande à ma nièce qui a 28 ans, j'ai dit, mais est-ce que tu les connais, tous ces chanteurs-là? Moi, il y a une partie des chanteurs, je ne les connaissais pas, et je me suis astreinte à les écouter, ceux dont on dit qu'ils sont du talent. Mais elle m'a dit, mais moi, j'ai pas le temps, je sais pas, je travaille, je ne sais pas, tante Denise. Moi non plus.
Dans les dernières années, on a vu des Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe qui est-ce que...
On verra dans 10 ans où ils seront. Et là, je vous le dirai, parce que moi, effectivement, je les découvre quand ils ont vraiment passé l'épreuve du temps.
Donc vous écoutez quoi, vous, Denise Bombardier?
Moi, j'écoute la musique baroque du 17e siècle anglais.
Ça.
Puis j'écoute toute la chanson française. Aznavour, tout ça, Brel. L'autre jour, j'étais dans ma voiture, je me rends compte que j'ai une cassette qui est rentrée, qui était inscrite. J'ai réécouté Félix Leclerc, que j'ai pas beaucoup aimé, pour tout vous dire. Quand j'étais jeune, j'aimais des choses plus... Mais les textes sont extraordinaires. hein, sur le tour de l'île et tout ça. Bon, c'est une chanson, ça, on est dans la... Est-ce qu'on est dans la nostalgie? Non, on est dans la chanson qui sera écoutée sans doute encore par des gens dans l'avenir.
Vous parlez d'Aznavour et des chansons qui nous tirent une larme encore
absolument,
aujourd'hui, parce que
ça
répond
aussi
à notre réalité
mais
encore
bien
aujourd'hui.
Sûr. Oui, je vous parle d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je pourrais chanter la même chose.
Élise Bombardier, merci.
Merci.
Contenu Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Dessureau. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.